Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes bien le quatrième vendredi du mois et c'est donc la Fondation Copernic qui investit l'émission Mode d'emploi. La Fondation Copernic pour remettre à l'endroit ce que le libéralisme fait fonctionner à l'envers. Avec aux manettes Claude et Mathieu et Laurent au micro. Donc ce soir, nous nous intéressons aux nanoparticules, aux nanosciences et aux nanotechnologies. Un thème aussi vaste que son objet est infiniment petit. Nano renvoie à une unité de mesure, le nanomètre, qui est 1000 millions de fois plus petit qu'un mètre. Nous sommes à l'échelle de l'ADN et des atomes. On parlera donc de nanoparticules, nanosciences, nanotechnologies. Bref, nous emploierons le terme nano pour englober l'ensemble, tout en essayant d'être le plus précis possible dans nos propos. Énergie, aéronautique et spatiale, électroménager, textile, cosmétiques, médicaments, alimentation, l'eau. Les nanoparticules sont partout, même si on ne les voit pas, et ce qui rend le sujet d'autant plus difficile à traiter. Les citoyens sont d'ailleurs très peu, voire pas du tout informés, et certains industriels incluent des nanos dans leurs produits sans que l'on en connaisse vraiment les impacts. Heureusement, des scientifiques et des associations citoyennes ont mis en avant ces problématiques en termes de toxicité, de transparence et d'éthique.
Pour discuter de ces sujets, la Fondation Copernic reçoit deux invités. Dans les studios, nous avons Francis Château-Renaud, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous dirigez le groupe de sociologie pragmatique et réflexive. Vous travaillez essentiellement sur les rapports entre sciences et société, sur les alertes et les controverses environnementales et ou technologiques. C'est dans ce cadre que les nanotechnologies sont devenues pour vous un terrain d'études. Et vous avez notamment suivi le débat public dont on reparlera tout à l'heure, qui a eu lieu en 2009-2010. Nous recevons également au téléphone Sarah Dubernet. Sarah Dubernet, est-ce que vous êtes là ?
Oui, bonsoir.
Parfait. Bonsoir. Vous êtes, on va vous laisser vous présenter, mais donc vous êtes membre de l'association de veille et d'information civique sur les enjeux des nanosciences et des nanotechnologies, Avicenne.
Oui. Citoyenne. C'est pas civique, c'est citoyenne, mais bon.
D'accord.
Ouais. Ça se ressemble. Ouais.
Très bien.
Donc dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes les précédentes, sur le site web de la Fondation Copernic et sur le site de l'émission Mode d'emploi. Également en rediffusion sur Fréquence Paris Pluriel le mercredi à 7h du matin.
Alors on va commencer cette première partie par une introduction un peu généraliste, hein, histoire de caler le sujet de ce soir. Sarah Dubernet, peut-être qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que sont les nanoparticules ou les nanotechnologies ?
Mais une nanoparticule, encore, c'est pas trop compliqué à définir. C'est une particule qui fait entre 1 et 999 nanomètres, selon les critères scientifiques. Selon les critères législatifs, c'est 1 et 100 nanomètres. On a retenu la limite de 100 nanomètres au niveau de la législation. Par contre, les nanotechnologies, c'est beaucoup plus vaste. En fait, c'est tout ce qui se fait à l'échelle du nanomètre. Donc, est une échelle, je vous entendais dire, on est au niveau de l'ADN et de l'atome. En fait, on est au niveau de l'ADN. On est au niveau aussi de l'échelle des virus. À peu près ces échelles de grandeur, c'est plus petit que des cellules humaines. Par contre, c'est plus gros que l'atome. On fait des nanoparticules avec plusieurs atomes. L'atome est beaucoup plus petit, les particules élémentaires sont beaucoup plus petites. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait à cette échelle-là, donc c'est très très vaste. Et globalement, en fait, quand on regarde la réalité des budgets de recherche qui se disent nano, on retrouve des nanotechnologies, des biotechnologies, de la nanoélectronique, par exemple, des nanopuces, des nanocapteurs, etc., etc.
Très bien. Peut-être vous souhaitez compléter.
Bonjour à tout le monde. Moi, évidemment, en tant que sociologue, je me suis intéressé aux nanos pour des raisons, on va dire, de de physique théorique ou de même de philosophie des sciences, mais plutôt parce que ça émergeait comme un ensemble de préoccupations sur à la fois les choix technologiques qui étaient faits dans les sociétés occidentales, en particulier aux États-Unis, puis en France, en Europe, et aussi parce que ça rappelait à beaucoup d'acteurs d'autres problèmes qui avaient eu lieu avant, hein, autour notamment de la chimie, des produits chimiques, d'une part, des biotechnologies, ça a été dit, mais en particulier les OGM, hein, et puis d'autres soucis liés notamment aux particules ultra-fines, par exemple. Alors c'est intéressant parce que la limite de 100 nanomètres, justement, elle croise ce qu'on appelle très souvent les particules fines, hein, c'est les particules ultra fines. Enfin, on est dans une zone là où les deux problématiques peuvent se croiser. Donc, moi, je suis rentré là-dedans parce que je travaille beaucoup. Donc, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure sur les alertes et les controverses, c'est-à-dire comment naissent des problèmes, qui les porte, quelles définitions en sont données, quel conflit ou quelle controverse ça génère. Et quel type de régulation ou de non-régulation, parfois d'ailleurs, ça produit. Et c'est vrai que les nanotechnologies ont beaucoup fait parler d'elles entre, en gros, 2005 et 2011-12. Et puis c'est un petit peu retombé ces derniers temps.
On entend quand même moins parler. Hein.
Ouais. Et c'est pour ça que là, je salue d'ailleurs notre ami qui est là, puisque le fait qu'il y ait des veilles citoyennes, c'est absolument décisif sur ce genre de dossier, puisqu'ils ont tendance à disparaître un peu de l'horizon médiatique ou politico-médiatique, à se faire discret. Oui, et c'est très important qu'il y ait un travail continu. Sur les OGM, vous avez InfoGM, par exemple, qui fait un travail de veille aussi, hein, sur ce qui se passe. Et actuellement, vous savez qu'ils sont très mobilisés sur les post-OGM, d'une certaine manière, sur les nouvelles formes de modification génétique, qui seraient un peu la suite. Et on sent bien qu'il y a une pré-controverse là qui s'organise, précisément parce qu'il y a des enjeux de définition aussi de ce que font les industriels ou voire les chercheurs.
D'accord. Et c'est un peu l'objectif, ouais, de l'émission, d'essayer de rendre visibles des sujets qui peuvent disparaître au gré de l'actualité médiatique. Et voilà, on avait envie de remettre la lumière sur cette question qui est un peu disparue du débat public depuis 5-6 ans. Peut-être Sarah Dubernet, vous pouvez nous expliquer. Bon, on voit un peu plus, du moins on imagine, parce qu'on voit pas grand-chose sur les nanoparticules et les nanotechnologies. Mais quels sont les intérêts de travailler à cette échelle? Qu'est-ce que recherchent les scientifiques et surtout ceux qui les utilisent dans leurs produits, les industriels? Qu'est-ce qu'ils recherchent en travaillant sur l'échelle nano?
Quand vous épluchez les rapports gouvernementaux ou les médias qui parlent de ça, les médias de masse, j'entends, vous avez un tas d'intérêts qui sont brandis. Hein. Il y a des listes impressionnantes d'intérêts. Après, d'un point de vue purement scientifique, hein, c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler sur l'échelle de l'infiniment petit. Moi-même, je suis infirmière. Quand j'ai commencé à m'interroger sur ces choses-là, j'ai trouvé que c'était, d'un point de vue fondamental, vraiment intéressant. Comme c'est intéressant de travailler sur l'atome et les particules élémentaires, etc. Après, au niveau du développement technique, parce que c'est vraiment ça, c'est pas des disciplines scientifiques, ce sont des disciplines techniques et ingénierie. Enfin, c'est de l'ingénierie, c'est pas de la science. Ce qui se fait globalement, alors l'intérêt, j'aurais du mal à répondre à cette question parce que je suis pas dans la tête de nos décideurs. Moi, je dirais, mais ce sera peut-être un peu cynique, que c'est quelque chose que personne ne comprend, c'est extrêmement complexe, ça échappe à toute réglementation, ça utilise des termes nouveaux, même pour des choses qu'on connaissait déjà avant, et surtout c'est un gros engouement industriel, sachant que la recherche, je suis désolée de le dire, est devenue un gros business, et en fait c'est très intéressant de décortiquer l'infiniment petit à cette échelle. Il y a, en fait, si vous voulez, on prend un atome de ci, un atome de ça, et on brevette. Les nanobrevets, c'est des choses extrêmement complexes, mais qui déferlent sur le marché. Donc oui, c'est absent des débats, comme vous disiez, au niveau médiatique, mais par contre, c'est extrêmement investi, y compris dans nos universités et nos centres de recherche. Donc moi, j'y vois un intérêt sûrement, surtout financier, et puis c'est discret, et puis personne comprend.
Alors, on les retrouve où, par exemple, ces nanoparticules, dans quels produits
Les nanoparticules, en fait, vous les retrouvez absolument partout, les nanotechnologies. Alors, il y a deux choses à distinguer dans les nanotechnologies. Vous avez le côté particules, avec toutes les questions que ça pose au niveau de la toxicité, et le côté tous les procédés qu'on peut faire à cette échelle. C'est pour ça que, par exemple, il n'y a pas de frontière entre les biotech et les nanotechnologies. Un brin d'ADN, c'est une nanomolécule. Donc, travailler à cette échelle, c'est aussi des nanotechnologies. Donc, les procédés, vous les retrouvez partout, la nanoélectronique, dans les smartphones, etc. quant aux particules en elles-mêmes, et c'est ça qui va peut-être intéresser les auditeurs en matière de toxicité et d'exposition, vous pouvez les retrouver partout où il y a des produits chimiques aussi. C'est les industries chimiques qui ont amorcé ce virage. Et en particules libres, notamment, sur lesquelles on peut être exposé. Il y en a dans les médicaments, il y en a dans l'alimentation, il y en a dans des textiles, dans des biberons, dans des serviettes, etc. Il y a en fait un petit peu partout dans nos objets de la vie quotidienne, on peut en trouver.
Il y a des nanoparticules naturelles ou c'est forcément artificiel, retravaillé par l'homme ?
Là je parle de nanoparticules manufacturées intentionnellement. Vous avez aussi des nanoparticules. Évidemment, dans la nature, il y a des nano-éléments de toutes sortes. Il y a des éléments de toutes sortes de tailles. Et puis, on parle aussi des nanoparticules qui sont faites, générées par l'industrie ou par les combustions, mais qui sont pas intentionnelles. Par exemple, les incinérateurs, etc., vont rejeter des particules ultra fines et des nanoparticules. Mais là, je parle vraiment de ce qu'on fait intentionnellement et qu'on met dans des produits intentionnellement, qui sont essentiellement des nanoparticules métalliques ou minérales. Du mica, du quartz, du titane, de l'argent, de l'or, du zinc, etc.
Francis Chiatorino,
tout à fait vraiment juste et très important d'introduire cette notion d'intentionnalité, parce que dans beaucoup de débats antérieurs sur d'autres dossiers comme la radioactivité ou l'amiante, une des lignes de défense pendant très longtemps des industriels, c'est-à-dire il existe de la radioactivité naturelle et le minéral, puisque l'amiante n'est finalement qu'un minéral dans la nature, existe à l'état naturel et finalement les...
Donc on n'est pas responsable.
Voilà. Ben c'est pas ça, c'est que c'est du coup ça brouillait considérablement les instruments de mesure et l'attribution de causes environnementales ou de pollution.
Ça banalise.
Ça banalise en même temps, puisque finalement ça existe déjà. C'est vrai aussi dans la génétique. Hein. Il y a des mutations génétiques dans le truc, donc du coup, avec la transgenèse, on ne fait que améliorer et même contrôler en fait ce que la nature fait de manière sauvage.
Sauf qu'on n'est pas dans les mêmes degrés, dans les mêmes.
Donc on va rentrer dedans progressivement.
Et alors,
On est déjà, juste pour information, on est déjà. Si on compte à échelle mondiale, parce que l'industrie est mondialisée, c'est difficile d'avoir des chiffres uniquement en français, et puis on a des produits qui viennent de partout, on est à des centaines de milliers de tonnes de production de nanoparticules.
Oui. Alors c'est ce qu'on a vu, on a lu le chiffre de 400 000 tonnes par an, c'est ça, à peu
près ? En fait, c'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus.
Il y a eu une déclaration obligatoire qui s'est mise en place il y a quelques années. Mais par exemple, si vous lisez le livre de Roger Langlais, qui est très très bon, qui s'appelle Nanotoxique, il avait trouvé des chiffres en 2008 qui déjà estimaient en quantité produite sur le sol français à 2 millions de tonnes, uniquement sur le sol français. Ah, vous imaginez bien que c'est bien pire que ça.
Donc il y a des usines, il y a des usines qui produisent des nanotubes de titane ou de fer, etc.
Tout à fait.
C'est ça. Qui fournissent après les différents secteurs.
Voilà.
On va revenir, en fait, c'est un peu la question centrale, c'est que on manque d'informations et on a toujours l'impression d'être en retard sur l'information sur tous les domaines, que ce soit rien que la quantité présente, fabriquée, que sur la toxicité de ces produits.
Et peut-être la durée de vie dans l'environnement, enfin, parce que c'est 2 millions de tonnes par an, donc au bout de 10 ans, ça fait 20 millions de tonnes en France, ou est-ce que, je sais pas, ça se volatilise, ou ça se fixe, ça descend les rivières et ça finit au fond des océans comme les matières chimiques, ou comment?
Vous voulez répondre peut-être?
La réponse, elle est contenue dans la question. À l'évidence, là, il y a production d'une pollution permanente non maîtrisée qui s'accumule effectivement à différents endroits. Le problème étant toujours d'essayer de comprendre les chaînes de transformation, puisque effectivement, il y a à la fois les problèmes sur l'eau, sur l'air, sur les matériaux, sur tous les déchets que nous produisons de manière continue, parce qu'on parle du textile, par exemple, mais ça produit aussi des déchets. Et donc, il y a en fait des lignes de problèmes tellement nombreuses, avec des acteurs tellement différents qui traitent tout ça, que il y a une opacité effectivement aujourd'hui pour constituer on va appeler ça une traçabilité en l'occurrence, mais des nanoparticules dans l'environnement et dans les corps humains.
Les impacts sont pas à l'échelle nano, visiblement. Ça a l'air de se croiser sur
les
domaines et ça a l'air de générer une complexité.
Là, on va s'éloigner du cœur du sujet qui vous intéresse, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une conscience qui a quand même émergé à plusieurs endroits, hein, de différentes échelles, de l'interdépendance et de la caractère systémique des problèmes environnementaux. On peut partir du climat, si vous voulez, puis on va très rapidement arriver aux pesticides et aux problèmes de pollution en chaîne et aussi aux impacts sur la santé, etc. Enfin, vous prenez les rapports du GIEC, d'ailleurs, vous avez en fait une chaîne de conséquences qui est assez incroyable, quoi, sur plein de choses. Et donc, si on prend n'importe quel fil, que ce soit les biotechnologies, en l'occurrence la radioactivité ou les nanotechnologies, à chaque fois, on rentre et on se rend compte qu'il y a des problèmes d'interaction entre tout ça qui sont absolument pas traités, puisque finalement, il y a une séparation des compétences et des domaines d'action qui font que les acteurs qui sont dans un domaine ne regardent pas ce qui se passe dans l'autre.
Mmh.
Alors,
c'est difficile d'avoir
les nanos ont fait bouger un peu au début, précisément sous le concept de convergence technologique, qui a été un concept extrêmement controversé, discuté par énormément de gens, notamment des philosophes des sciences, des épistémologues, en faisant converger, parce que précisément en changeant d'échelle, on permettait de se faire rencontrer des domaines qui jusqu'à présent étaient séparés. Donc effectivement, on l'a dit, hein, le gène, l'atome, l'information, le bit d'information, c'est-à-dire qu'on peut faire des nano-ordinateurs en triturant des cellules et en les entourant de matière, de nano-matériaux qui leur permettent, comme au MIT, ils font des expériences, c'est de faire des nano-assembleurs, par exemple, des espèces de créatures comme ça qui s'auto-construisent. Enfin, il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup d'expérimentations là-dedans, il y a même de l'art, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui jouent avec ça. MIT, ils ont toujours joué sur les frontières. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien ces passages de frontières entre des domaines, mais en fait, dès qu'on revient à l'échelle humaine qui est la nôtre, qui est celle de nos formes de vie, citoyennes, activités, travail, etc., là, il y a effectivement une perte de signal assez importante.
Peut-être avant de faire une pause musicale, est-ce qu'on peut faire un petit point sur la réglementation ? Parce que, en faisant un peu de recherche, on a eu du mal à comprendre la réglementation actuelle. Est-ce que Sarah Dubernet, vous pouvez nous éclairer un petit peu?
En fait, la réglementation, elle est très pauvre. On peut pas, depuis le début des années 2000, on investit massivement, y compris notre économie à nous, dans le développement des nanotechnologies. Donc, on peut pas investir et en même temps faire des lois qui vont freiner. Donc, la réglementation est très faible. Elle est européenne et elle concerne uniquement l'étiquetage. Sur les biocides notamment et sur l'alimentation qui n'est pas respectée d'ailleurs et sur les cosmétiques.
Alors elle date de quand cette réglementation ?
Il y en a eu plusieurs successivement, mais c'était en fait, si vous voulez, la définition même au niveau de l'Europe des nanomatériaux, uniquement des nanomatériaux, elle est arrivée en 2011. Donc et les réglementations, elles sont sorties à peu près dans ces eaux-là, 2013, 2011, 2014.
D'accord.
2015, je crois, pour l'alimentation.
Après, les premières recherches et après les premières introductions dans certains produits.
Pardon ?
Si c'est arrivé qu'en 2011 ou 2013, c'est bien après les premières introductions dans les produits commercialisés.
Ah oui, oui, bien après, parce qu'on a investi au niveau des États, si vous voulez, États-Unis, France, Japon, etc. C'était autour des années 2000. Les gros plans d'investissement dits comme tels sur les NBIC, donc les technologies convergentes. Par contre, ça faisait déjà 20 ans qu'on commençait à investir ça au niveau industriel. Et au niveau scientifique, ça fait même encore plus longtemps qu'on travaille sur l'infiniment petit. C'est la physique quantique, c'est la physique de l'atome, etc. Donc c'est pas du tout nouveau. Et juste un mot sur la réglementation, parce qu'en fait, il y a des réglementations sur les nanos, et puis il y en a aussi beaucoup d'autres. Par exemple, il y en a une qui est passée complètement à l'as en 2012, qui classe tous les domaines de la recherche potentiellement classifiables secret défense. Ah oui. On appelle ça zone à régime restrictif. Tous les domaines de la recherche, y compris la santé publique, la pharmaceutique, etc. Donc, en fait, il y a des réglementations qui se contredisent aussi dans l'avancement, dans la réalisation de l'application de ces lois. C'est ça que je veux dire.
Très bien. Écoutez, on va parler dans la deuxième partie de l'émission du débat public justement sur ces nanoparticules. Et en attendant, on va faire une première pause musicale.
Oui.
bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic, et nous venons d'écouter Fuego de Bomba Estéreo. Je vous rappelle que l'émission de ce soir est consacrée aux nanoparticules, nanotechnologies, nanosciences, et nos invités donc sont Francis Château-Renaud, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Sarah Dubernet, membre de l'AVICEN, association de veille et d'information citoyenne sur les enjeux des nanosciences et des nanotechnologies.
Donc Sarah Dubernet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les impacts sur la santé et l'environnement des nanoparticules manufacturées, à la fois les impacts qui commencent à être reconnus scientifiquement et les impacts qui sont suspectés, qui ne sont pas encore tout à fait scientifiquement établis.
Alors moi, je pourrais plus vous parler de l'aspect sanitaire que de l'aspect environnemental, parce que c'est ce que j'ai le plus étudié, même si j'ai un peu croisé les deux. Si on s'en tient au discours, si vous voulez, les rapports mettent bien en évidence le fait qu'il y a une cancérogénicité, c'est-à-dire que ça peut favoriser le développement de cancer. Ça met en évidence pas mal de choses, mais personnellement, je les trouve assez pauvres, les rapports, quand on va soi-même chercher les études. Il y a des milliers d'études de toxicologie des nanoparticules.
C'est des études qui ont été menées sur des animaux, sur des humains
aussi ?
Sur
des animaux, sur des cellules, sur des plantes, sur des bactéries, sur des champignons, sur pas mal de choses. Il y a même des cas concrets. En fait, on a des cas, par exemple, il y a eu un cas en santé au travail en Chine avec des ouvrières chinoises. Qui ont eu des gros problèmes pulmonaires avec après une exposition, alors une grosse exposition, avec pas de protection. Cela dit, la protection
ne sert à rien par définition.
En tout cas, elle est difficile à mettre en œuvre. Mais ouais. Là, c'était vraiment une très très grosse exposition et elles ont eu, elles travaillaient depuis moins de 2 ans dans l'usine.
Et c'était une usine qui travaillait spécifiquement sur des nanoparticules des produits qui contenaient des.
Ouais, c'était des produits. Elles manipulaient des peintures qui contenaient des nanoparticules de polyacrylate. Et elles ont toutes eu des problèmes pulmonaires, mais divers et variés. En fait, c'est ça qui est très particulier avec les nanoparticules, c'est que ça peut entraîner des effets très variés.
D'une personne à l'autre.
Donc, c'est ce qui permet de maintenir l'incertitude. On continue de dire on ne sait pas. Alors qu'en fait, moi, je dirais plutôt que c'est divers et varié, justement. Surtout quand on regarde les études soi-même et quand on épluche vraiment beaucoup de rapports, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'impacts qui ont été mis en évidence. Notamment le fait, comme elles sont très petites, elles pénètrent partout, elles pénètrent notamment les cellules, ou alors le corps va réagir comme si c'était un virus, un agent extérieur, donc il va envoyer les cellules immunitaires qui vont essayer de les phagocyter, et puis comme ce sont des nanoparticules, non pas des virus, les mécanismes de détoxification de l'organisme se retournent contre les cellules elles-mêmes. Donc on a des inflammations, on a mis en évidence des problèmes de toxicité sur les cellules d'immunité, sur les nerfs, de pénétration dans les organes, etc., et de persistance à long terme, notamment, parce qu'elles sont justement pas biodégradables dans un organisme. Et même quand on arrive à les éliminer via les urines ou autres, ça provoque quand même des inflammations importantes.
D'accord.
En fait, on en revient un peu à la définition de ce qu'est une nanoparticule. C'est lié à la spécificité de cette échelle infiniment petite.
Alors, c'est parce que
ça provoque des impacts qu'on connaît pas forcément avec d'autres.
Oui, et parce que juste une particule, donc c'est très petit, donc ça peut pénétrer partout, mais aussi c'est très réactif. Plus on diminue la taille d'une particule, plus sa réactivité va augmenter. C'est d'ailleurs un argument de vente des industriels en disant avec moins de matériaux, on a une réactivité plus forte. Mais en matière d'exposition, c'est évidemment un gros problème, quoi.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que ça entretenait le doute, hein, le fait d'avoir plusieurs des impacts un peu différents. Donc ça, c'est aussi une stratégie des industriels pour se défendre qui est assez classique, non, monsieur Château-Renaud?
Alors, je pense que ça pose des problèmes de fond. Là, il faudrait une journée entière pour les parcourir, parce que ça pose des problèmes déjà de l'indépendance de l'expertise. L'expertise toxicologique est une vieille histoire, comme vous savez. Régulièrement, on voit qu'il y a des conflits d'intérêts. Alors, il y a aussi une tentative de réguler les conflits d'intérêts, donc on entre dans des spécularités, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser de l'objet, on va s'intéresser à la procédure par laquelle on peut construire des expertises qui ont quelque chance d'être à peu près indépendantes par rapport au milieu industriel. Alors, en fait,
Quand on a des procédés comme ça qui sont plus de la science fondamentale, mais qui sont de la science appliquée, qui va très vite, qui passe par des canaux assez peu régulés finalement, avec des enjeux économiques et donc aussi des problèmes de protection liés aux brevets, des choses comme ça, il y a une opacité pour les évaluateurs. Et donc en général, on fait appel aux gens qui ont accès quand même aux connaissances et donc qui sont liés au réseau industriel et qui ont une connaissance. Il ne s'agit pas d'ailleurs de la contester en disant que ce sont des banquignols. Ce sont des gens qui connaissent leurs affaires, mais qui le connaissent aussi pour des raisons d'intéressement. Et donc là, il y a des bagarres assez intenses. Alors, c'est vrai que ces dernières années, c'est surtout autour des perturbateurs endocriniens, au niveau européen en particulier, qu'on a vu se jouer ces bagarres, on va appeler ça de lobby et de contre-lobby, hein, avec donc des associations qui essayent d'obtenir une transparence maximale et donc des définitions qui permettent ça aussi, hein. Je vous rappelle que une partie de la bagarre sur les nanos, c'est aussi joué par rapport au règlement REACH qui lui porte sur les produits chimiques, parce que il y a eu des tentatives pour essayer d'introduire dans REACH en fait la régulation des nanos, mais ça posait des problèmes de définition et aussi de tonnage, parce que REACH a
finalement fermé, la réglementation européenne REACH n'intègre pas la
non
partie.
Et c'est une bagarre parce que en fait il y a plein d'acteurs qui y voient évidemment des avantages et d'autres des inconvénients, puisque comme vous le savez, depuis maintenant une quinzaine d'années, une des grosses bagarres au niveau européen se fait autour d'un principe juridique qui est bien connu maintenant, qui est supposé être bien connu, qui est le principe de précaution.
Oui.
Or, dans le cas des nanos, on n'est plus du tout dans la précaution, puisqu'en fait, on a laissé passer les incertitudes très en amont. Normalement, voilà, c'est ce que Sarah a très bien expliqué. Donc, on est dans des situations où, en fait, ça prolifère. Et donc, on court derrière, quoi. D'une certaine manière, on court derrière. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment une recherche... Ce que montre l'Agence européenne de l'environnement, qui est une agence assez intéressante parce qu'elle a une certaine indépendance. En fait, elle ne prononce pas d'autorisation. En fait, elle est assez libre. C'est qu'il y a, dans les investissements publics sur la recherche, il y a la part de recherche concernant la toxicologie, concernant les risques, en fait, et les impacts, est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on met tout sur l'innovation. On met tout sur les clusters innovants, les machins, etc. Et il y a très peu, en fait, de budget. Et les recherches retenues, c'est en gros des micro-mondes où les gens sont parfois même un peu militants, du coup, parce qu'ils sont un peu voilà. Et dans le cas des perturbateurs endocriniens, ça a été très net. C'est des groupes de chercheurs en endocrinologie, en toxicologie, en épidémiologie qui ont réussi à se fédérer pour faire apparaître, en fait, les problèmes, etc. Et ça rejoint une problématique, et celle des nanos rejoint la problématique des faibles doses, c'est-à-dire des expositions à des choses qui sont totalement en dessous des seuils de détection habituels et qui demandent de réviser complètement les protocoles toxicologiques.
Alors, Sarah Dubernet, on va vous redonner la parole parce que je crois que vous devez nous quitter avant la fin de l'émission. Quelles sont les actions de la VCN et des autres ONG pour essayer de publiciser ce problème et que voilà qu'on en parle dans les médias,
qui se mettent en place,
dans des arènes citoyennes.
Alors le premier collectif qui a, c'est pas une association, c'est un collectif libre, on va dire, qui a travaillé là-dessus, c'est Pièces et Main d'œuvre. Pas tellement sur les aspects toxicité, mais plutôt sur les questions que ça pose en matière de surveillance, notamment la nanoélectronique, les puces, les capteurs, etc. Donc Pièce et Main-d'œuvre fait un gros travail bibliographique qui est très intéressant. Je conseille aux gens d'aller lire. Après, en matière d'association, il y a donc la Vicenne qui suit ça depuis plusieurs années aussi et qui fait une veille vraiment très très intéressante sur tout ce qui est réglementation, toxicité, etc. Et puis vous avez des associations comme la Fondation pour les sciences citoyennes, etc. Bon, il y a différents assos ou collectifs qui se mobilisent, mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on en a un peu entendu parler, notamment autour du débat public. En tout cas, ça a été mis en débat à ce moment-là. On en entend toujours parler dans les médias. Moi, je lis plus les médias depuis que j'ai fait ce travail de journaliste. Mais par contre, dès que j'allume la télé ou autre, on en entend parler de cette high-tech constamment dans les kiosques à journaux, les sciences et vie, etc. Mais c'est pas sous forme de débat et de mise en débat, quoi. Après, évidemment, les assos, elles essayent de se mobiliser sur des projets de loi, sur des choses comme ça, quand elles sont sollicitées. Et puis il y en a qui refusent complètement de travailler dans ce sens-là, ce que je peux tout à fait comprendre aussi, parce qu'on a l'impression que c'est pas par ce biais qu'on y arrivera. Voilà, c'est un gros. En fait, s'attaquer aux nanos, c'est s'attaquer aux 300 plus grands groupes mondiaux, c'est s'attaquer à Google, c'est s'attaquer à la, aux industries chimiques, aux armées, au nucléaire, parce que c'est vraiment dans ces viviers-là, en fait, que se sont développées cette bulle de technologie convergente. Et donc, c'est évidemment très compliqué.
Mais quelles sont les revendications? C'est peut-être la première, c'est d'avoir plus de transparence. C'est la, je crois, la Commission européenne qui parle de géant invisible, pas seulement parce que c'est nano, mais c'est parce que malgré les réglementations, l'étiquetage n'est pas respecté.
Il y a une revendication de la part de certains, c'est simplement d'arrêter de faire ce qu'on considère être des grosses bêtises qui nous mettent en danger plus qu'autre chose. Mais ça, enfin, je veux dire, on s'attaque à ça, on s'attaque à notre économie, donc c'est tout le système qui s'effondre, c'est assez compliqué. Après, vous voyez bien dans le paysage des militants en général, il y a des degrés différents et des engagements différents. Il y en a qui vont plus essayer de composer avec les institutions, avec la réglementation, etc., de demander, comme vous dites, plus de transparence ou des choses comme ça, mais ou plus de vigilance. Mais enfin, bon, concrètement, on voit bien que pour le moment, depuis quelques années, ça s'est plutôt empiré. Vous parliez de conflit d'intérêts tout à l'heure, mais la recherche est complètement... Il y a des partenariats publics-privés de partout, pas que dans la recherche, mais dans l'enseignement. Donc ça devient vraiment très compliqué de pouvoir faire quelque chose au niveau institutionnel, à mon avis en tout cas.
Francis Chateau-Renaud, est-ce que vous pouvez nous faire une petite cartographie un peu des différents mouvements citoyens sur les revendications? Il y a quand même des positions... différentes, certains sont
alors,
un peu
en
plus
fait,
dans
y a
la radicalité.
C'est-à-dire qu'il y a des précurseurs, hein. Il y a des associations, par exemple, je pense à ETC Group, qui est un groupe
qui est excellent,
qui était très très tôt sur les OGM et qui a compris très tôt, vu émerger en fait les programmes nanotechnologiques aux États-Unis et qui a vu les enjeux, qui a fait des rapports magnifiques, hein, sur ces questions-là et qui parcourt en fait, c'est en ligne, hein, tout ça, hein, ETC produit, alors ETC comme etc. Enfin, c'est, the Friends of the Earth aussi, hein, les amis de la Terre. Après, il y a des groupes. Alors, on a parlé de pièces et main d'œuvre. Pièces et main d'œuvre, c'est un geste politique. C'est un geste. On parle de néoludisme, c'est-à-dire que pour eux, enfin, il y a un fond un peu. Vous voyez Jacques Ellul, hein, la critique du système technique, du système technicien, une société qui devient de plus en plus dépendante de la technique. Et les nanotechnologies, c'est l'aboutissement pour eux, en fait, de cette espèce comment une société contemporaine s'enfonce en fait dans la dépendance technologique et nous rend complètement dépendants. Regarde le smartphone,
c'est
Internet,
la croyance dans la technologie. Donc,
quand on lit pièces et main d'œuvre, les nanos, bon, au début, c'était un de leurs chevaux de bataille parce qu'en fait ils étaient concernés à Grenoble par le groupe Minatech qui a été une des entreprises on va dire pionnières, hein, sur les recherches en nano électronique en particulier, et aussi Clinatech qui, on pourra en parler, c'est encore tout un autre type d'application plutôt en santé, etc. Et en fait, ils ont été au combat là-dessus, mais on voit bien que d'ailleurs, il y avait un programme très large, hein, de contestation de la technologie comme technologie de pouvoir. Et ensuite, vous avez d'autres groupes qui sont des groupes de citoyens qui sont aux prises, je dirais, avec ces comités d'experts, avec ces commissions, avec la manière dont se font les textes réglementaires, qui ont une influence un peu chez les Verts ou chez d'autres sources politiques, mais qui sont effectivement beaucoup plus dans l'esprit de concertation. Donc, quand ils ont fait le débat public en 2010 autour de la Commission nationale du débat public, tous ces acteurs sont venus avec des propositions. Il y avait des syndicats, il y avait des associations. Il y avait des industriels, il y avait même les transhumanistes étaient représentés. Ils avaient présenté un cahier où ils expliquaient leur programme, etc. Et on a vu en fait qu'il y avait toutes sortes de concernements. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'unité de la critique. Il y avait effectivement tout un gradient qui allait depuis la contestation radicale des technologies jusqu'à, au contraire, la revendication d'un droit d'accès aux possibilités de la technologie.
Alors, c'est Roger Langlais, vous l'avez cité tout à l'heure, auteur du livre Nanotoxique, qui lui parle. Enfin, il dit on est complètement hors démocratie. Donc, il y a eu ce débat public, mais alors, qu'est-ce que finalement ce débat public a amené? Comment on peut dire du coup qu'on est hors démocratie? Enfin voilà. Enfin, on a eu ce débat public, mais qu'est-ce qui ensuite s'est poursuivi ou pas pour laisser de la place au débat?
Oui, allez-y.
Oui, allez-y, Sarah Duvernay.
Pardon. Oui. En fait, on est en démocratie, mais le débat public est arrivé déjà, ça faisait au moins 10 ans qu'on investissait dedans. Donc, on peut pas parler d'un débat pour décider des choses alors qu'elles sont déjà en place et qu'on investit massivement. On est hors démocratie. Non, non, c'est quelque chose qui échappe complètement. Et puis, quand ça échappe à toute compréhension, je veux dire, c'est extrêmement complexe, comme on disait. Ça part dans tous les sens, sur tous les nanos, ça veut vraiment rien dire. La technique, en effet, et là, je rejoins Jacques Ellul quand il le disait déjà dans les années 50, hein, elle se développe de fait. Et on est confronté à ça. Et on a du mal à pouvoir avoir prise dessus. Quand des gens essayent, c'est très compliqué. Je le vois dans le domaine de la santé, quand on essaye d'apporter, de faire des recherches ou d'apporter d'autres types de thérapies que ce qui nous est proposé, y a beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a des gens qui ont réussi à faire des voitures qui roulent à l'eau, ils ont des bâtons dans les roues. Donc les nanos, c'est pareil, quoi. Ça nous envahit, on n'a pas le choix. En fait, on arrive et on est là et ça nous aide. Moi, comme infirmière, j'ai eu à injecter sciemment des nanoparticules à des patients et ça m'a rendue un peu folle, je vous avouerai. On peut pas dire non, on n'a pas le droit de dire non. Alors après, d'après moi, la démocratie, il faut peut-être pas attendre les institutions pour se la faire. Il faut peut-être s'inventer d'autres façons de faire entre nous, tout simplement, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ces prises de décision-là, elles sont complètement imposées, elles sont tellement massives. Et puis alors, je pense, juste un petit mot là-dessus, mais c'est assez général aussi, mais il y a un vrai, vrai problème dans la formation des chercheurs qui sont de plus en plus formés à faire du développement technique, justement. Depuis la création de l'Agence nationale de recherche en 2005, on demande même aux chercheurs de dire en amont ce qu'ils vont trouver et à quoi ça va servir, ce qui est complètement anti-démarche scientifique. On a fait des telles restrictions budgétaires que pour faire des recherches, il faut avoir des investissements privés à côté. Donc là, en fait, c'est tellement massif que c'est très compliqué, d'un point de vue institutionnel en tout cas, d'y échapper. C'est pas du tout démocratique. Non. Et à partir du moment où c'est dans des débats d'experts, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui s'autorisent à penser ces sujets-là, avec des termes très compliqués, etc. C'est pas simple du tout, oui.
Ce qui est intéressant, c'est que à travers ce sujet, on pourrait nous dire qu'on fait une émission scientifique, mais là, on voit vraiment comment, à travers la technologie et d'autres phénomènes aussi, l'économie a pris le pas sur le politique. Quoi. C'est assez impressionnant dans ce domaine. Hein.
Mais à mon avis, sur même la pensée, effectivement, la pensée humaine, hein, au sens large, si même nos universités et autres sont tellement parasitées que ça a pris le pas dessus, oui. Un chercheur aujourd'hui, un biologiste, si vous voulez avoir des informations sur des plantes, faut aller voir des associations de botanistes amateurs. Un biologiste, il est formé à faire des biotech. Il peut connaître par cœur la génétique d'une plante, mais il saura même pas de quelle plante il s'agit. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Très bien. Mais merci. On va faire une seconde pause musicale et on va écouter la Narendra Dita du groupe Siglo BND.
C'était la Narendra Dita des Grupo Siglo BNT. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission mode d'emploi animée par la Fondation Copernic. Avant de reprendre le thème de ce soir, on va faire un petit tour d'horizon rapide de l'actualité de la Fondation à travers la Minute Copernic.
Oui, alors vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation Copernic. Vous y trouverez un certain nombre de publications et d'articles, dont parmi les plus récents, des articles sur le Front National qui notamment prétend défendre les droits des femmes, donc avec des féministes qui dénoncent cette imposture. Un article sur sortir la dette des marchés financiers. Donc face à un discours qui justifie la mise en œuvre généralisée des plans d'austérité au nom de l'ampleur de la dette et des déficits publics, l'article défend la déconstruction de ce discours et met en avant des solutions alternatives pour modifier les rapports de force. Et puis vous trouverez aussi un agenda sur les futures mobilisations pour entendre les voix et les différentes actions qui sont portées en ce moment. Bien sûr, le 1er mai et également le 20 mai, après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc on revient à l'émission de ce soir sur les nanoparticules et les nanotechnologies. Il y a un point qu'on n'a pas encore vraiment abordé, c'est la question de... Enfin, on l'a un peu abordé, mais la question de l'étiquetage et l'affichage des nanos sur les produits que l'on consomme tous les jours, finalement.
Notamment les produits alimentaires. Hein, on comprend pas grand chose généralement à l'étiquetage. C'est du domaine de la science et en tant que consommateur lambda, on a un peu de mal à suivre. Mais quand on voit des E et des chiffres, si j'ai bien compris, en général, on peut se dire que il y a des chances d'avoir des nanoparticules. Hein. C'est ça, Sarah Dubernet?
Ça peut, oui. Le E171, par exemple, c'est du dioxyde de titane. Mais rien ne prend en considération les chaînes nano ou pas nano. Donc, vous n'êtes pas sûr que ce soit du nano ou pas du nano. Après, les estimations aujourd'hui, comme la nouvelle mode, c'est nano. On sait qu'il y en a beaucoup. Mais il n'y a rien de clair, en effet. Et puis, bon, d'une façon générale, le problème des débats qui se posent autour de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est... il y a eu des grosses batailles sur l'étiquetage, mais l'étiquetage, c'est, je pense que vous et moi, quand on regarde un produit et qu'on voit des tas de noms savants de produits chimiques, on n'en sait pas grand-chose. D'ailleurs, les chimistes eux-mêmes ne sont pas formés à la toxicologie, donc eux-mêmes pourront pas en savoir grand-chose.
Ah oui, eux-mêmes, ça c'est pas rassurant.
Oui, comme les médecins ne sont pas formés à ça, et les infirmiers non plus.
D'accord.
Moi, j'ai fait un master de santé environnementale, c'est à cette occasion que j'ai été un peu formée, et c'est à cette occasion que j'ai commencé à travailler sur les nanos, mais c'est assez sidérant d'apprendre ça... quand on soigne déjà des gens depuis 15 ans.
D'accord.
Mais du coup, l'obligation, voilà. Normalement, c'est de mettre un chiffre comme ça, abscon, que personne ne comprend, ou c'est d'indiquer nano, qui est un peu plus...
Non, alors l'obligation, parlant. Oui. Il y avait une obligation justement de spécifier l'état nano, mais par exemple, sur les produits alimentaires, l'année dernière, il y a eu Agir pour l'environnement et la vie saine qui ont été récupérés dans des supermarchés, différents produits. Qui les ont testés et qui ont trouvé dans chacun de ces produits des nanoparticules. Il y a d'autres assos aux États-Unis qui l'ont fait aussi. Donc en fait, l'étiquetage pour le moment n'est pas du tout efficace.
Sur aucun des produits, il y avait l'étiquetage.
Sur aucun des produits, il y avait la spécificité nano.
D'accord.
C'est tellement complexe. Il y a un tas de façons d'échapper aux réglementations. Je vous donne un exemple. Il y a une dame qui m'a fait parvenir à un échange qu'elle avait eu avec les laboratoires Caudalie qui font des cosmétiques. Elle avait vu dioxyde de titane sur une crème. Elle se demandait si c'était nano ou pas. Elle a envoyé un mail à Caudalie et Caudalie lui a répondu « Non, madame, ce ne sont pas les nanoparticules parce qu'elles font moins que 100 nanomètres. » Donc ça, c'est la définition législative et non pas scientifique. Par ailleurs, ce sont des particules de mica enrobées de titane. Donc, vous voyez, en fait, il y a un tas de façons d'échapper à la réglementation. Il faut qu'il y ait 50% de particules, dont au moins une des dimensions, soit de taille nanométrique, etc. Donc là, récemment, pareil, une dame qui travaille dans des cosmétiques bio s'en est inquiétée elle-même. C'était un agent qualité de cosmétiques bio à qui j'ai fait une formation sur la nanotox. Et elle a été vérifier ses produits et il y avait 30% de particules dites nanométriques selon la législation.
D'accord, y compris donc, dans le bio, voilà. Quoi. Donc le bio ne veut rien dire en fait en fonction sur la question des nanoparticules et de leur toxicité, quoi.
Malheureusement, oui. Et puis en fait, comme disait monsieur tout à l'heure, au niveau de la recherche, c'est pareil au niveau de l'industrie, c'est tellement fractionné que même un fournisseur qui peut être de bonne volonté, hein, il peut avoir un produit qui lui arrive avec des nanoparticules sans forcément savoir qu'il y en a dedans.
Dans la chaîne de fournisseur à fournisseur.
Voilà.
Monsieur Chateau-Renaud, vous voulez compléter
Compléter non, parce que c'est très précis et c'est vraiment ces problèmes d'étiquetage sont sans fin et il y a un vrai problème de contre-pouvoir qui se dessine là dans ces affaires-là. Donc je voudrais juste revenir sur la question sur on n'est pas en démocratie en fait, que vous avez souligné à partir de Roger Langlais, mais qui est assez général. En fait, ça serait bien d'inverser le raisonnement, c'est-à-dire que serait une démocratie technique. Vous savez, c'est un terme qu'avait employé un sociologue qui s'appelle Michel Calon. qui avait beaucoup insisté sur l'importance de la présence des citoyens, des profanes, des gens qui connaissent rien dans les dispositifs où on fait les réglementations, où on parle des sciences et des techniques. En fait, moi je pense qu'il y a plusieurs conditions à réunir, et c'est là où on voit que ça va être très difficile et que c'est un combat qui est loin d'être gagné pour les gens qui essaient de faire avancer ces causes. Je pense qu'il faut des agences indépendantes. Et en soi, ça déjà, c'est tout un combat. Alors en France, on n'est pas si mal loti que ça, et je pense que j'invite tout le monde à aller voir ce que fait l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Environnement, qui, bon, c'est un champ de force, hein, une agence, c'est pas une personne, donc il y a des tensions, voilà, il y a des divergences, mais il y a un travail qui est fait, et sur les nanos en particulier, ils se sont saisis de ces questions-là, et parfois ils posent des questions qui fâchent. Ça se voit notamment quand les industriels envoient des lettres, ils sont pas contents, ou quand ils quittent violemment un groupe de travail en disant c'est pas possible, c'est devenu militant cette agence, etc. Il se passe des choses, mais simplement, il n'y a pas de communication médiatique, très peu. D'abord parce qu'il y a le devoir de réserve des fonctionnaires, comme vous le savez, qui empêche les agents de l'agence de communiquer sur ce qui se passe dans ces trucs-là. C'est le deuxième étape que je voulais signaler. Il faudrait aller vers un monde. Alors, il se trouve que c'est dans ma sociologie qui sont nés les lanceurs d'alerte, donc je peux en parler un mot, où des acteurs peuvent prendre la parole publiquement sans être l'objet de sanctions. C'est absolument décisif pour avoir une démocratie qui marche. Faut pas avoir des Edward Snowden à tous les étages, ça serait invivable, mais quand même, à un moment donné, pouvoir sortir du système technique dans lequel on est pour en révéler le fonctionnement, c'est quelque chose qui est absolument indispensable, donc ça fait déjà une deuxième condition. La troisième, c'est qu'il faut s'intéresser aux formes de vie les plus ordinaires et à regarder comment les gens vivent avec ces objets-là. Quelles questions ils se posent? Comment les questions peuvent surgir? Effectivement, l'alimentation, c'est un très beau cas.
Quels sont les usages?
Parce que le bio a beaucoup joué là-dessus. C'est venu percuter le côté aveugle qu'on avait pendant des décennies, hein, de bouffer un peu n'importe quoi, de pas regarder, et puis progressivement, parce que précisément il y a l'option bio, on est obligé de regarder comment sont qualifiées, labellisées, étiquetées les choses. Donc c'est intéressant, ça oblige à une attention. Et donc on n'a pas de démocratie si on n'a pas d'attention aux choses. Et quand je dis aux choses, évidemment, vous avez compris que c'est aussi aux autres, et d'une manière générale. Donc au fond, cette attention, elle est absolument décisive, parce que, donc, vous voyez, j'essaye de remettre un peu d'optimisme, parce que sinon, le sentiment qu'on est écrasé.
C'est souvent ce qu'on essaye de faire dans
les dernières parties. Et il faut évidemment des réglementations et du droit qui fonctionnent, donc il faut aussi une indépendance de la justice. C'est-à-dire que quand quelqu'un a des choses à contester, qu'il y ait des espaces dans les tribunaux qui puissent fonctionner sur ces questions-là, sans que ça soit totalement abscon pour les juges.
Mais c'est vrai qu'aussi, il faudrait pouvoir poursuivre, finalement, parce que toutes ces industriels de la chimie, etc., qui savent finalement que un certain nombre de leurs produits sont toxiques et qu'ils continuent à les mettre, ça, on n'a aucun moyen aujourd'hui de pouvoir...
Alors, il y a quand même un apprentissage collectif, parce qu'il y a eu l'amiante, parce qu'il y a eu la radioactivité, parce qu'il y a eu beaucoup de... Là, aujourd'hui, c'est les pesticides qui sont en train de bouger un petit peu. Le problème, c'est la lenteur des processus de mise en accusation, de construction des victimes, de fabrication des preuves. Parce que, évidemment, quand on va dans une arène judiciaire, il faut arriver quand même avec des dossiers qui tiennent la route, parce que sinon on se fait laminer. Même dans le cas de l'amiante, vous savez qu'il y avait un grand procès en Italie qui a été assez très loin, hein, puisqu'on a été chercher des milliardaires qui ont été mis en cause et condamnés. Sur un acte de procédure, la Cour suprême italienne a fait valoir la prescription et a tout annulé.
D'accord.
20 ans de travail de milliers de gens. Hein. Donc le droit est fragile. Donc pour faire une démocratie, il faut cet ensemble et évidemment une recherche libre. Alors là, je souscris évidemment à cette pénétration par le néo-management dans les milieux de recherche, y compris dans les sciences sociales et humaines, et peut-être même de plus en plus dans ces domaines-là, parce qu'elles sont peut-être plus soft et plus faciles à conquérir. J'ai osé envoyer un email politique à l'École des hautes études en sciences sociales il y a 10 jours, parce qu'il n'y avait aucun débat politique. Ce mail parlait des réformes et de l'état de l'université de la recherche. Je me suis pris une volée de bois vert, trois mails extrêmement violents disant on ne parle pas politique sur les listes à l'école des hautes études en sciences sociales, là où Bourdieu a grandi. Et d'ailleurs, on n'oublie pas de rappeler que Bourdieu, c'est notre patrimoine, etc. On discutait, ne serait-ce que pointer simplement un texte qui posait des questions au programme politique d'un candidat, c'est vrai, mais je l'avais fait exprès, candidat qui va très certainement d'ailleurs être élu. J'avais regardé simplement comment on pouvait discuter quand même les propositions pour l'université de la recherche. Impossible. Enfin, impossible. Après, d'autres sont venus, ça a été une grosse bagarre, mais on voit bien que ça dérange tout le monde. Et donc, je pense qu'une recherche qui retrouve une autonomie, une liberté, fondamentale, c'est aussi une des conditions. Donc vous voyez que ça se joue à plein d'endroits. Et donc je pense que chacun dans son milieu doit faire bouger. Et voilà.
Et du côté citoyen, alors peut-être les solutions...
Motiver d'espoir.
Sarah Dubernet, alors juste avant que vous parliez, je voulais mentionner peut-être Open Food Facts ou ce genre de choses qui permet à chacun de renseigner sur ce site internet la composition des produits, et on a une base de données qui est intéressante. Alors ça dit rien de la, enfin ça dit un peu de la toxicité, mais pas non plus énormément de choses. Mais voilà, donc Sarah Dubernet peut-être sur les initiatives citoyennes et
oui,
juste et les motifs d'espoir.
Je voudrais juste rebondir voilà là-dessus parce que c'est un peu difficile d'avoir ce rôle. De dire des choses qui sont pas agréables à entendre et de s'entendre souvent répondre on n'est pas optimiste. C'est pas vrai, moi je suis quelqu'un de très optimiste. Ça m'empêche pas d'être heureuse dans la vie. Bien simplement sûr. D'un point de vue politique, non, je le suis pas du tout. Je trouve que c'est catastrophique. Et j'avais pas mesuré l'ampleur de cette catastrophe.
C'est intéressant de le dissocier, surtout, aujourd'hui, en fait.
C'est vrai que d'un point de vue, alors, quand on s'intéresse à tout ça, on voit aussi tout ce qui se passe, les prises de conscience, les mobilisations de personnes, de citoyens et autres, de professionnels. Et en fait, je trouve que j'ai l'impression, alors ceux qui travaillent par exemple sur les problématiques environnementales, les beaucoup plus anciens que moi me disent qu'il n'y a jamais eu autant d'émulation du côté des populations. Et par contre, d'un point de vue politique, effectivement, ça s'empire, on est tous d'accord à ce niveau-là. Donc il y a ces deux effets, il y a ce qui vient du bas, il y a ce qui vient du haut, et peut-être d'ailleurs que les deux sont pas sont un peu liés l'un à l'autre, quoi. Donc après au quotidien, je sais pas comment quand on me demande en conférence ou autre comment échapper aux nanos, je sais pas quoi dire. Moi, d'un point de vue infirmier par exemple, ne supportant plus trop pas mal d'aspects de cette médecine qui déjà me dérangeait, mais là, après une investigation, j'ai mieux compris pourquoi ça me dérangeait. Et les enjeux, j'ai choisi simplement d'aller vers d'autres types de thérapies. Donc, je suis en formation sur d'autres types de thérapies. Il y a un tas de gens qui font des choses comme ça. Il y a des chercheurs qui arrêtent leur recherche aussi dans les institutions, qui vont faire ça ailleurs ou qui vont faire ça différemment. Mais c'est pas facile du tout. C'est pas du tout évident. On n'est pas aidé à ce niveau-là. Et puis après, dans le quotidien, effectivement, on peut toujours choisir plus du bio, du local, du plus simple. Bon, ça, c'est les trucs habituels.
Faire
soi-même un maximum, mais c'est pareil. Bon, ça colle pas trop avec nos modes de vie, mais voilà. Bon, après, je vais répéter les trucs un peu qu'on dit tout le temps, quoi. Essayer de faire au plus simple, au plus... Et puis, effectivement, garder une joie de vie, parce que c'est pas en étant déprimé que ça va nous aider, et en baissant les bras.
Très bien. Merci, je pense que ça va être le mot de la fin parce qu'on est...
Heureusement, on aurait bien fait le deuxième.
Voilà, on aurait pu prolonger. Alors juste pour agir, vous pouvez aussi... Il y a une pétition en ligne, hein, justement, d'agir pour l'environnement qui demande un moratoire, je crois, sur les nanos. Alors pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site veillenano.fr. Sur wikinano.fr ou sur le site de l'Avicen, donc A-V-I-C-E-N-N. Voilà, vous pouvez lire différents ouvrages. Donc l'émission est terminée, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site www.fondation-copernic.org ou sur le site de la radio, Radio Fréquence Paris Pluriel, donc rfpp.net. La prochaine émission, elle a lieu le 26 mai. On parlera Brexit, à moins qu'on change le thème de l'émission. D'ici là, on verra. Donc, on remercie Francis Château-Renaud, directeur d'études à l'EHESS, et Sarah Dubernet, donc membre de la Vicen. Je remercie également Magali Ringot d'Agir pour l'environnement et Mathilde Echeverry de la Veille Nano et Avicen pour nous avoir aidés aussi dans la préparation de cette émission. Je vous remercie et à plus tard. On finit par le suprême NTM, plus jamais ça, une chanson contre le parti des porcs.
Merci, au revoir.